Lyon Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis le début des années 2000 et plus encore depuis la révolution de 2011, les femmes sont victimes de harcèlement sexuel en Égypte. Cette pression constante est particulièrement mal vécue depuis qu'en 2006, une vidéo amateur a diffusé des images d'une fin de Ramadan particulièrement pénible pour les femmes. Depuis, celles-ci s'organisent et se tournent de plus en plus vers des cours de self-défense qui, d'un besoin légitime de se protéger physiquement, débouche souvent sur des revendications plus profondes en termes d'indépendance et de libertés individuelles. C'est ce que montre en tout cas le travail de Perrine Lachenal, une jeune anthropologue française qui a enquêté pendant plusieurs années dans les principales villes d'Égypte. Antioche, Antakya ou Hatay, quel que soit son nom, turc, arabe ou français, cette ville vit au rythme de l'histoire, celle des empires romains ou ottomans, celle des croisades chrétiennes ou du protectorat français, celle aujourd'hui du drame syrien. Nicolas Falaise nous en donnera quelques échos dans son reportage. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Comment être une femme en Égypte ? La question est loin d'être anodine dans la mesure où, depuis une dizaine d'années, la question du tarouch al-shansi, le harcèlement sexuel, se pose de plus en plus. Et la révolution de 2011 a démultiplié le phénomène. On se souvient de notre consoeur de France 24 qui, en fin de reportage, Place Tahrir, c'était Sonia Dridi, avait fait face à une véritable meute d'hommes pressants et n'avait dû son salut qu'à son caméraman attentif. Perrine Lachenal, bonjour.
Bonjour.
Doctorante en anthropologie à l'IDEMEC, l'Institut d'ethnologie méditerranéenne à Aix-en-Provence, ainsi qu'au CEDEJ, le Centre d'études économiques du Caire en Égypte. C'est d'ailleurs lors de vos différents séjours au Caire que vous avez mené cette enquête, après avoir vu se développer la pratique des arts martiaux pour les femmes. C'est bien cela ?
C'est ça, exactement.
Alors, vous écrivez que tout a commencé en 2006, à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr, la fin du Ramadan. Que s'est-il passé à ce moment-là ?
C'est une date à laquelle s'est vraiment cristallisée la question du harcèlement sexuel en Égypte et a été formulée comme telle dans les débats. L'Aïd 2006 donc, a été marquée par ce qui a été appelé un phénomène de harcèlement de masse, c'est-à-dire dans une rue du centre-ville du Caire, des actes de violence collective de la part des hommes présents sur les femmes qui étaient sorties ce soir-là. Sans doute pas la première fois que ça se passait. Il se trouve que la scène ayant été filmée, ça a pu déclencher en fait au Caire un grand mouvement militant contestataire qui explique en gros le développement des cours d'autodéfense pour les femmes.
Alors est-ce que 2006 est un élément déclencheur et qui s'amplifie en 2011 avec la révolution ?
C'est-à-dire qu'en 2006, la question du harcèlement sexuel émerge vraiment dans le débat public, les rapports se multiplient, etc. Mais on est encore, entre guillemets, le harcèlement fait partie de la rubrique un peu mœurs de l'Égypte. On va dire que la révolution de 2006 a mis un petit peu au cœur de la place Tahrir cette question des violences et des violences sexuelles, et du coup, là, en quelque sorte, anoblie. C'est-à-dire qu'elle quitte justement le registre des faits divers et de la frustration, etc., pour arriver quand même pour devenir formulée en termes de violence politique, violence du pouvoir, arme de dissuasion contre les manifestantes et contre les manifestants. Donc le problème, en fait, se repolitise, ce qui est très très bien, parce que je pense qu'on ne peut pas le penser hors du politique.
Perrine Lachenal, au Caire, dans quel lieu se déroulent exactement ces cours de self-défense ?
Alors, en général, il y a des clubs de sport dans lesquels ils ont lieu, mais c'est une minorité d'espaces et dans ces cas-là, c'est dans les quartiers très favorisés socialement. Mais surtout, ça va être dans les centres sociaux, centres culturels, où petit à petit, on voit des offres de cours d'autodéfense pour femmes se multiplier.
Vous parlez notamment du centre culturel Al-Sawi.
Absolument, centre culturel qui assez particulier dans le paysage, on va dire, des lieux destinés à la jeunesse au Caire, qui se trouve sur l'île de Zamalek, au centre-ville, et qui est un lieu très accessible. Zamalek est un quartier assez riche hein, par rapport au Caire, mais le lieu cultive une politique d'accès aux activités pour un public de jeunes très divers et pas forcément particulièrement privilégié. Alors, socialement.
Est-ce que cette pratique est ouverte à tous et à toutes surtout ou réservée à une certaine élite ?
On peut pas nier que la pratique est socialement située. On parle des classes moyennes, moyennes sup, on va dire, de la société égyptienne. Après, au sein des ONG, et ça c'est nouveau aussi, on a des propositions de cours où là vraiment ça va être dans des quartiers dits informels au Caire, c'est-à-dire des quartiers très défavorisés, et où on va voir des cours aussi se proposer de manière bénévole par des professeurs.
Alors, vous écrivez que la pratique de la self-défense donne lieu à des apprentissages, mais aussi à des désapprentissages. Expliquez-nous.
Du coup, à la base de cette pratique, il y a cette idée que être une fille de cette manière-là, c'est-à-dire avoir finalement appris que c'était valorisé de pas parler trop fort, de baisser la tête, de pas réagir, de marcher d'une certaine manière, être une fille de ces manières-là, c'est se mettre en danger. Et du coup, il y a cette idée de désapprendre à être une fille, c'est-à-dire repenser la manière dont on va marcher, dont on va tenir sa tête, dont on va porter le regard. Et en fait, c'est vraiment une idée un peu de déprogrammer le corps, c'est-à-dire travailler à avoir de nouveaux réflexes quand on est dans l'espace de la rue et qu'on est confronté à notamment des contacts non désirés.
Vous dites également que c'est l'occasion pour certaines femmes de tester de nouvelles tenues vestimentaires ou alors de mieux utiliser leur voix.
Disons qu'il y a des jeunes femmes qui décident aussi d'aller faire de la self-défense un peu comme un prétexte. Et du coup, peut-être que pour certaines, c'est aussi c'est des espaces d'expérimentation qui, de manière singulière pour chacune des filles, selon leur trajectoire, leurs histoires, etc., vont trouver sens et peuvent s'inscrire du coup dans des trajectoires un petit peu contestataires pour certaines.
Et vous voulez dire que cet enseignement des arts martiaux peut être aussi l'expression d'une aspiration plus profonde de changement au-delà de soi-même, mais aussi peut-être des rapports au sein de la société.
Oui, bien sûr. Et puis du coup, de mettre en tension, à l'échelle d'une salle de sport, justement, des problématiques plus larges et finalement qui sont liées à l'expression du pouvoir. Et c'est sûr que la révolution leur a donné une portée encore plus forte, si je peux dire.
Est-ce que vous diriez que cette pratique du self-défense est de nature à bousculer les hiérarchies de la société égyptienne ?
J'ai pu voir que certaines des jeunes femmes, en parallèle de ces apprentissages et des apprentissages, vont aussi entamer des moments de transition dans leur famille, commencer à contester des choses. C'est-à-dire que ça peut accompagner quand même des remises en question des rapports de pouvoir de manière un peu plus large que la seule pratique.
Et au bout de 3 ans d'études et de recherches sur le terrain, vous avez l'impression que de plus en plus de femmes vont vers la self-défense ?
Oui, après c'est quand même toujours dans les classes très favorisées socialement du Caire. Mais oui, en tous les cas, ça se multiplie.
Merci Perrine Lachenal, doctorante en anthropologie à l'Université d'Aix-en-Provence dans le sud de la France.
Merci à vous.
Je précise que vous étiez en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Aix. C'est une ville qui a plusieurs noms, Hatay pour les Turcs, Antakya pour les Arabes et Antioche si on se réfère à son nom antique. Une ville turque chargée d'histoire jusqu'à nos jours puisque les échos de la guerre en Syrie, toute proche, y résonnent actuellement. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Grand reporter au service international de RFI, vous étiez récemment à Antioche, Antakya ou Hatay, quel que soit son nom, en tout cas c'est une ville au passé extrêmement riche.
Oui, une ville importante à l'époque de l'Empire romain. Antioche qui ensuite comptait dans l'histoire du christianisme. On dit que les apôtres Pierre et Paul y sont passés et qu'une des toutes premières églises chrétiennes y fut fondée. Antioche, ce fut aussi le point de départ de la route de la soie qui menait jusqu'en Chine.
Alors on est à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière syrienne. D'ailleurs, Antioche était autrefois syrienne.
La ville et la province qui l'entoure sont même toujours revendiquées par la Syrie. Alors, un peu d'histoire, lors de la chute de l'Empire ottoman à l'issue de la Première Guerre mondiale, les puissances européennes redessinent la carte de ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient. À cette époque, la Syrie et le Liban sont placés sous mandat français et c'est la France qui a ensuite choisi d'offrir à la Turquie une province jusque-là considérée comme syrienne, la province du Hatay, où se situe Antioche.
Et la ville d'Antioche conserve encore aujourd'hui l'empreinte de ce passé syrien.
Oui, à Antioche, on rencontre beaucoup d'habitants qui parlent l'arabe. C'est une ville mélangée, multiculturelle, multireligieuse. Dans la vieille ville d'Antioche, et à proximité, on trouve des mosquées, des églises catholiques ou chrétiennes orthodoxes. Il y a aussi une synagogue et une petite communauté juive. Écoutez Barbara, une religieuse catholique allemande qui vit depuis plus de 30 ans dans la vieille ville d'Antioche.
Je pense qu'Antioche se considère comme une ville de paix, où des gens de culture, de religion, d'ethnie et de races différentes vivent ensemble paisiblement. Et les gens qui viennent ici, qu'ils soient turcs ou étrangers, veulent découvrir ce que peut leur offrir une ville de paix. En particulier ici, tout près du Proche-Orient, où se poursuivent les guerres et les chocs de culture.
Et la guerre, en effet, n'est pas loin, Nicolas, en Syrie voisine.
Et Antioche en subit les conséquences. Hein. Les habitants vous parlent de ces jeunes hommes barbus qui atterrissent à l'aéroport de la ville et passent ensuite la frontière pour aller combattre en Syrie au nom du djihad. Et puis, ici, il y a des milliers de Syriens qui ont fui la guerre. On estime qu'il y a aujourd'hui en Turquie entre 700 000 et 1 million de réfugiés syriens, dont une minorité seulement vivent dans des camps de réfugiés. Les autres sont installés dans les villes et ce n'est pas sans conséquence. Écoutez, Oktay, il parle arabe, mais il est turc. Habitant d'Antioche, préoccupé par l'afflux de Syriens dans sa ville.
Bien sûr que ça change beaucoup de choses. Ça a transformé l'économie. Il y a tellement de gens qui sont arrivés ici et tous ne travaillent pas. Les prix augmentent, les loyers augmentent.
Conséquence économique, mais Oktay, l'habitante d'Antioche, nous dit aussi que beaucoup d'habitants turcs de sa ville ont peur de voir la guerre en Syrie déborder de ce côté-ci de la frontière. L'année dernière, un attentat à la bombe a fait une cinquantaine de victimes à Reyhanlı, non loin d'Antioche.
Merci Nicolas Falaise, journaliste à RFI, de retour de la ville d'Antioche, en Turquie. Voici une chanteuse pop en provenance de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, bien que née à Bucaramanga, en Colombie. Fatih Nizza est l'une des révélations vocales du Moyen-Orient, où elle s'est produite aussi bien devant les plus hautes autorités locales qu'au Grand Prix de Formule 1 automobile d'Abu Dhabi. You Said est son dernier single.
You said no more, you didn't care at all. My dreams you've crushed, with empty hands I'll go. I'll find my way to make it back someday. To see your face in the dark of your day. The words you said still ringing in my head. I know it's in vain trying to make it straight. Lonely as I seem, don't worry about me, love. Time tends to heal wounds, so let's wait and hope.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alexandre, la situation en Syrie refait les manchettes des journaux panarabes, lesquels consacrent une large place à ce qu'ils appellent la guerre des enlèvements de femmes. Expliquez-nous.
D'abord, pour de nombreux éditorialistes, la solution diplomatique ou politique de la crise syrienne n'est plus à l'ordre du jour. En fait, selon les journaux, la crise va finir par se régler sur le terrain et par les armes, et aussi par les enlèvements, puisque le journal Al-Quds Al-Arabi indique que l'opposition islamiste syrienne propose aujourd'hui l'échange de 94 femmes et enfants de la secte alaouite, dont est issu Bachar el-Assad, contre 2000 prisonniers et prisonnières détenus dans les prisons du régime. Alors un éditorialiste, Afak al-Awsat, lui, revient sur l'affaire des nonnes de la ville chrétienne de Maaloula, qui avait été récemment libérée en contrepartie de prisonniers détenus aussi dans les prisons du régime. Alors il s'en prend aux médias arabes qui ont rendu hommage à la tolérance des ravisseurs en estimant qu'il s'agit d'une sorte d'apologie du crime, et le pire des crimes selon lui, puisqu'il s'agit de l'enlèvement de femmes qui n'ont rien à voir avec le conflit en cours.
Alors la presse israélienne, Michel Paul, préfère plutôt s'intéresser aux tensions avec Gaza.
Retour des averses tant attendues cette semaine en Israël, mais dans le sud, c'est une pluie de roquettes qui s'est abattue à la suite d'un incident à la frontière entre Israël et Gaza. La période de tension la plus importante depuis l'opération Pilier de Défense en novembre 2012. Alors, retour au calme grâce à l'intervention de l'Égypte. On se prépare au prochain tour, titre l'éditorialiste de Yediot Aharonot. Pour le journal Israël Hayom, proche du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, il n'y a pas de solution qui puisse durer sur ce front. Il faut, estime un chroniqueur de droite, changer les règles du jeu, considérer la bande de Gaza comme un État à part entière avec tout ce que cela comporte comme responsabilité. La presse revient sur les propos du ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman, qui propose ni plus ni moins une nouvelle invasion du territoire palestinien, mais l'ensemble des commentateurs prônent plutôt une politique de retenue.
Alors, les tensions entre Israël et Gaza, ainsi que la visite du Premier ministre britannique David Cameron, préoccupent également vos journaux, Alexandre Bouchanti.
Oui, des journaux qui se demandent pourquoi le djihad islamique et Israël ont soudain décidé de passer à l'offensive, roquettes d'un côté, bombardements de l'autre, sans victimes, précisent les journaux. Ils se demandent si la question est liée justement à la visite du Premier ministre britannique en Israël et en Cisjordanie. Et puis des journaux qui estiment qu'au fond, la visite de David Cameron n'a rien apporté de nouveau, sinon de soutenir les propositions faites par John Kerry, le secrétaire d'État américain, à l'autorité palestinienne. Et des propositions qui, selon les journaux, en fait, n'apportent rien de nouveau, puisque c'est de la négociation pour la négociation, ce qui laisse le temps à Israël de construire de nouvelles colonies en Cisjordanie.
Alors justement, Michel Paul, côté processus de paix en Israël, c'est toujours silence radio.
Effectivement, on ne parle presque plus du processus de paix. Haaretz, cependant, fait son titre principal de son édition du week-end. Le journal fait état d'un message du secrétaire d'État américain John Kerry au Premier ministre israélien. C'est une erreur, estime Kerry, que de se concentrer sur la reconnaissance par les Palestiniens d'Israël en tant qu'État juif. Pour le journal, la campagne menée par le chef de la diplomatie américaine arrive à un point critique et le résultat pourrait bien être la rédaction d'un document déséquilibré qui ne serait pas en faveur d'Israël.
Et dans les journaux israéliens, encore Michel, peut-être le début d'une nouvelle donne politique.
Oui, vous savez Eric, l'opposition a brillé par son absence à la Knesset cette semaine lors du vote de trois lois de grande importance. Et la presse relève que l'on a vu naître une nouvelle alliance entre travaillistes et ultra-orthodoxes et aussi que le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se positionne pour les élections de 2016.
Alexandre, la présidentielle égyptienne, qui ne sera pas en 2016, mais beaucoup plus tôt, intéresse plusieurs journaux arabes et aussi égyptiens.
Oui, et une élection présidentielle dont on ne connaît pas encore la date, ni les candidats, du moins officiellement, c'est ce que soulignent les journaux, qui indiquent que pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que le général Sami Anan, l'ex-chef d'état-major égyptien, a annoncé qu'il ne sera pas candidat, que Hamdine Sabahi a annoncé qu'il allait être le candidat de la gauche et qui maintenant change d'avis ou ne change pas d'avis. Et de son côté, le maréchal Abdel Fattah el-Sissi, qui a laissé entendre qu'il se présenterait, ne l'a pas fait de manière claire et officielle. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a le général Ahmad Shafi, qui était l'ex-premier ministre de Hosni Moubarak, et le candidat qui a été battu face au président frère musulman destitué Mohamed Morsi. Le général Shafi s'en est pris au maréchal Sissi, mais en privé. Alors le hic, c'est que les propos en privé ont été enregistrés et publiés sur les pages de tous les journaux. Résultat, le général s'est fendu d'une déclaration publique cette fois, où il soutient le maréchal.
Alors pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour, quelle est-elle ?
Eh bien, ce sont des photos d'enfants déguisés pour le carnaval juif, la fête de Pourim qui vient de commencer, notamment ceux qui se trouvent dans les abris dans le sud du pays.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à Mathieu Salabert qui a réalisé cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.